Alors, je présente maintenant Klaus Scherrer. Il est né en 1943. Il est actuellement professeur de psychologie à l'Université de Genève, où il est arrivé en 1985. Il y est directeur du laboratoire d'évaluation psychologique et il y dirige un groupe de recherche spécialisé dans l'étude de l'émotionnalité, du stress, de la personnalité et de la communication. Il a une formation d'abord de sciences économiques et sociales à l'Université de Cologne et à la London School of Economics. Il a obtenu en 1970 un doctorat en psychologie à l'Université de Harvard. Il a enseigné dans diverses universités aux États-Unis, en Allemagne. Et il est devenu professeur de psychologie sociale à l'Université de Gießen en Allemagne en 1973. Et à partir de 1985, comme je vous l'ai dit, il est arrivé à l'Université de Genève. Il est spécialiste de l'évaluation cognitive des situations déclenchant des émotions, de l'expression faciale et vocale. Il s'intéresse aussi à l'application des découvertes scientifiques au domaine de l'économie et de l'administration publique. Il s'intéresse aussi au climat émotionnel, à la communication, je crois que émotionnelle. Et vous en aurez un large aperçu ce soir. Ses publications sont nombreuses dans des revues spécialisées, mais il a écrit aussi des ouvrages plus importants. Il est l'éditeur d'un manuel des méthodes dans les recherches sur le comportement non verbal. Il est l'éditeur aussi d'un livre sur l'approche de l'émotion, 1984. Un livre aussi sur les facettes de l'émotion en 1988. Il y a un titre en français, ce sont Les émotions, publié avec Rimet aux éditions Delachaux-Niesley en 1989. Il y a un manuel sur les sciences affectives, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut traduire, qui est sous presse à Oxford University Press. Je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes, selon nos usages, et ensuite vous pourrez poser vos questions pendant une vingtaine de minutes. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Le domaine des passions étant vaste, j'ai choisi ce soir de parler des émotions et de leur futur. Et je vais d'abord très brièvement aborder les passions dans l'histoire des sciences. Ensuite, on parlera un tout petit peu de la nature des émotions, parce qu'il faudrait d'abord savoir de quoi on parle. Et je focaliserai sur l'évaluation subjective comme facteur déterminant, et j'essaierai de vous convaincre que c'est effectivement un élément clé pour comprendre les passions. Ensuite, j'essaierai, et c'est peut-être un peu trop ambitieux, de vous donner un survol très rapide de l'état de la recherche ou des choses qui me semblent les plus importantes actuellement, et je terminerai avec le futur des émotions dans notre société. Les passions dans l'histoire des sciences. Les émotions, les passions, comme on les nommait autrefois, c'est devenu un peu vieillot ce mot, mais on en parle encore quand même, ont fasciné l'homme depuis vraiment l'aube des temps. Si vous regardez déjà le code d'Hammurabi, on en parle du rôle des émotions dans les affaires humaines et dans la juridiction. C'est fascinant, c'est pas encore très exploré, mais on voit bien que déjà au XVIIIe siècle, avant Jésus-Christ, il y a une étude, on pourrait presque dire scientifique, parce que la juridiction c'est bien ça, du problème de l'émotion dans la société. Et c'est ça qui va nous occuper ce soir. Ensuite, les émotions ont joué un rôle extrêmement important dans toute la production dramatique de l'Antiquité, par exemple dans les tragédies de Sophocle et l'Euripide, qui tous tournent autour des émotions de leurs protagonistes. Les passions prennent une place prépondérante dans toute la philosophie grecque et romaine, surtout dans le domaine de l'éthique et de la rhétorique, mais encore dans bien d'autres domaines de préoccupation philosophique. C'est d'ailleurs la théorie de l'âme de Platon qui a le plus influencé notre conception de l'émotion aujourd'hui. Platon, donc au IVe siècle avant Jésus-Christ, il a proposé cette structure tripartite de l'âme qui oppose l'émotion à la cognition et à la motivation. Voilà, vous avez le système qui a été proposé par Platon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fait la parallèle entre l'âme et la société. Donc, tout en haut, il y a la cognition, donc la pensée, la raison, les valeurs. Et ce sont des jugements rationnels réfléchis concernant le bon, le juste. Donc vous voyez bien le lien avec l'éthique. Donc pour lui, c'est les philosophes rois qui représentent cette partie de l'âme. Par contre, cette partie la plus haute, la plus importante, la plus éthique, est toujours opposée à la cognition ou la motivation, donc les pulsions, les instincts, les désirs basses. Donc, comme toujours, on connaît bien le patron, représenté par les classes basses, comme on dit. Donc, son idée concernant l'émotion était que l'émotion est entre les deux. L'émotion, quelque part, est représentée par les guerriers, les soldats, les policiers, etc., parce que le rôle des émotions serait de, quelque part, contrôler les désirs, les pulsions primitives, pour mieux faire valoir le sens de l'éthique, de la cognition, de la raison. Bon, on pourrait longuement discuter de l'aspect normatif de cette proposition. Il y a deux choses que j'aimerais bien retenir. Une chose, c'est que déjà à ce moment-là, la cognition est roi. Et les émotions, à la limite, ils sont des auxiliaires, quelque part. La deuxième chose, c'est cette séparation très très claire que fait Platon en ce qui concerne ces trois aspects de l'âme, de la psyché, de l'homme. C'est lui qui a, et vous savez bien que Platon a toujours insisté sur les catégories naturelles, c'est lui qui a créé cette distinction qui détermine encore aujourd'hui le curriculum en psychologie, par exemple, parce que vous avez des cours en psychologie cognitive, psychologie de l'émotion, psychologie de la motivation. Et ce genre de séparation étroite a vraiment déterminé la plupart de la philosophie et de la psychologie concernant ces trois aspects de la psyché. Particulièrement parce que des philosophes comme Moses Mendelssohn et Immanuel Kant, dans le XVIIIe siècle, ils ont mis en avant une proposition qui est tout à fait comparable, des facultés séparées de l'homme, justement en ce qui concerne la raison pure chez Kant ou la faculté de juger. Et de nouveau, c'était vraiment la cognition qui était la chose la plus intéressante, la plus importante, la plus désirable, tandis que les émotions, c'était un peu des fêteurs de troubles, si vous voulez. Et ceci, c'est vraiment perpétré jusqu'à aujourd'hui, le fait que les sciences cognitives, dont le règne a été assez solide pour autour de 30 ans, je dirais. Ces sciences cognitives sont modélisées selon l'image des algorithmes informatiques, et c'est effectivement dans la période la plus, je dirais, idéologique des sciences cognitives, l'idée c'était que les émotions, c'est vraiment une imperfection d'une machine cognitive qui, sans les émotions, serait parfaite. Maintenant, ça change, et je pense qu'on est en train de vivre une révolution affective, et surtout comme dans la société, dans le domaine public, il y a de nouveau beaucoup d'appétit pour les émotions. On trouve, par exemple, pas mal de publicités où on nous promet des sensations fortes si on achète tel ou tel parfum ou tel voyage. Donc, il semble que les émotions sont de nouveau devenues désirables, acceptables, même attractives. Donc, c'est un peu la même chose en science où maintenant, les sciences affectives, effectivement, sont en train de concurrencer les sciences cognitives, c'est-à-dire l'étude de la cognition chaude plutôt que la cognition froide, non affective, comme elle avait été étudiée dans les sciences cognitives. Donc, ce qu'on verra, c'est qu'il y a vraiment une cyclicité entre la raison et la passion, entre l'importance donnée à la cognition et l'importance donnée à l'émotion. Et ça, c'est quelque chose où, quand on discutera du futur, on va voir que ça va nous occuper. C'est important de voir que le rôle qui est donné ou à la cognition ou à l'émotion joue quand même un rôle très important, pas seulement pour la science, mais aussi pour l'importance dans les décisions, dans le comportement des gens. Alors, permettez-moi de passer rapidement à la nature de l'émotion. Je vais essayer de ne pas faire court, mais de juste vous donner quelques éléments importants. C'était Charles Darwin qui a vraiment intégré les émotions dans les sciences modernes, surtout avec un bouquin qui s'appelle encore « L'expression des émotions chez l'homme et des animaux ». Dans ce livre, Darwin a montré que les émotions, premièrement, étaient un produit de la sélection naturelle, car elles représentent des réactions adaptées aux contingences environnementales qui sont rencontrées par tout organisme. Selon lui, les expressions émotionnelles sont des reliquats de comportements adaptés à la survie des organismes et remplissent à la fois une fonction de communication sociale. C'est là fondamental. Parce qu'une chose qu'on va voir, c'est qu'au même temps, les émotions ont une fonctionnalité très importante pour l'individu, pour l'organisme, donc des fonctions intra-organismiques, mais ils sont en même temps des éléments de l'interaction et de la communication sociale. Et cette fonctionnalité double a beaucoup troublé les scientifiques. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des personnes qui insistent sur un côté ou sur l'autre. Mais déjà, Darwin a montré que les deux sont vraiment intégrés. Donc, la conception de Darwin, donc cette conception évolutionnaire, met en avant les patrons de réaction plutôt organiques, c'est-à-dire somatiques. L'expression faciale, l'expression vocale, qui sont dues surtout au système nerveux somatique, donc les muscles, les aspects physiologiques du système nerveux autonome, donc la respiration, le rythme cardiaque, etc. Pour Darwin, vu que l'émotion a un rôle adaptif, ce sont ces patrons somatiques qui sont fondamentaux parce que c'est eux qui, d'une certaine manière, vont fonctionner dans l'adaptation à l'événement qui a provoqué l'émotion. Et ce qui est aussi dû à Darwin, c'est l'idée qu'il y a un nombre limité d'émotions. Parce que lui, dans son bouquin, il avait un certain nombre de chapitres, et chaque chapitre traitait d'une émotion. Plusieurs noms, donc il y avait des familles d'émotions, mais il y avait la joie, la colère, la tristesse, la peur, etc. Et ceci a donné lieu à l'idée qu'on a un certain nombre d'émotions de base ou émotions fondamentales, généralement entre 6, 7, jusqu'à 10 ou 12, ça dépend des théoriciens. Et là aussi, nous avons un héritage qui est difficile à éliminer, parce que, comme dans le cas de Platon, avec cette distinction très claire entre la cognition, l'émotion et la motivation, dans 2000 ans et plus, on n'a pas pu s'en libérer, bien qu'Aristote avait déjà critiqué cette idée de cette distinction forte. C'est un peu la même chose avec ces émotions de base de Darwin, comme on verra. On a du mal à se libérer de cette idée. Parce que je suis convaincu que c'est peut-être pas tout à fait juste. Mais bon, on reviendra là-dessus. La deuxième orientation, tout à fait opposée à celle de Darwin, et celle de William James, le deuxième géant de l'histoire de la science qui a influencé notre pensée concernant les émotions. Lui, il était philosophe et psychologue, expert de la conscience, et il a répondu à la question « qu'est-ce que c'est l'émotion ?» avec une proposition qui était jugée assez révolutionnaire par ses contemporains. Parce qu'il disait notamment que les modifications organiques qui sont manifestes dans la plupart des émotions, et maintenant je cite, « ils suivent immédiatement la perception, et c'est la conscience que nous en avons à mesure qu'elles se produisent qui constitue l'émotion comme fait psychique. » Donc il avait un fameux exemple, il y a un ours qui sort de la forêt, Et on voit l'ours, on tremble, et le fait qu'on remarque qu'on tremble serait l'émotion. L'auto-perception du tremblement, pour James, était l'émotion. Vous pouvez vous imaginer que c'était assez révolutionnaire. Et c'était attaqué tout de suite, donc on n'a pas le temps de traiter ces débats qui partiellement durent jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette approche-là se focalisait beaucoup moins sur les aspects somatiques de l'émotion. Ils étaient là aussi, mais dans un rôle très différent, pas d'une manière adaptive. Ils étaient là vraiment comme fondement pour l'expérience subjective vécue pendant la période émotionnelle, sur la base de l'auto-perception des réactions provoquées. Dans ces débats entre l'école darwinienne et l'école jamesienne, on retrouve la dualité cartésienne de l'âme et du corps. Les émotions sont-elles mieux décrites par le patron des réactions physiologiques et musculaires, dont l'expression, ou par l'expérience subjective unique de l'individu face à sa réactivité dans un contexte donné? La qualité spéciale de cette expérience, donc les fameux qualia, comme disent les phénoménologues, est avancée comme argument pour refuser la possibilité d'une vie émotionnelle chez les animaux ou des êtres artificiels comme des robots. Des questions fascinantes, de nouveau, qu'on ne peut pas vraiment traiter en détail ce soir, mais c'est là où beaucoup de ce débat se fait. Qu'est-ce qu'il faut pour une émotion ? Et donc, le point de vue des phénoménologues, c'est qu'on ne va jamais pouvoir créer des qualia vraiment individuels, subjectifs, uniques dans un robot, comme ça existe pour l'homme. Et la même chose est maintenue pour les animaux, bien sûr. Vous avez donc ces deux positions qui, depuis très longtemps, sont en débat. Et il y a des, comme toujours pour ce genre de débat, il y a des camps. Il y a beaucoup de débats inutiles dans le sens où un certain nombre de choses ne sont même pas bien explicitées. Mais il y a de l'espoir. Il y a maintenant quand même une certaine convergence d'opinion d'essayer de trouver une position théorique qui nous permet de quelque part réunir les deux points de vue. C'est l'idée que l'émotion en réalité, c'est un processus, ça a été toujours au moins verbalement proclamé, mais très rarement étudié comme ça, et que ce processus a plusieurs composantes. Donc l'émotion comme conglomérat multicomponentiel. Là, vous avez un certain nombre de ces composantes. Donc vous avez par exemple là tout ce qui est psychophysiologie, donc les processus périphériques, rythme cardiaque, etc. Vous avez la motivation, les besoins biologiques, les pulsions qui sont générées par les émotions. Vous avez l'expression comme l'expression faciale, etc. Et vous avez le sentiment subjectif. Et comme j'ai dit, normalement, il y a eu cette opposition entre les deux. Quand on regarde les émotions comme processus multicomponentiel, on considère qu'on a toutes les composantes et ils sont d'une certaine manière liés. Et on va voir comment ils sont liés. Mais d'une certaine manière, ce type de conceptualisation nous permet aussi de regarder, ça vous voyez à gauche, les fonctions qu'est ces composantes différentes, et à droite, vous voyez le substrat, donc le système nerveux central, le système nerveux autonome, endocrinien, et le système nerveux somatique, SNS. Donc il y aura très peu de transparents, je vous promets, qui sont aussi denses que celui-là. C'était juste pour vous montrer la nécessité de vraiment regarder la plupart de ces composantes dans leur complexité. Maintenant, comment est-ce qu'on peut envisager le lien entre le sentiment comme composante de l'émotion et les autres composantes? Une manière de faire est comme ça, et c'est ce que je préfère comme conceptualisation, de dire le sentiment, c'est vraiment une réflexion de tout ce qui se passe. Donc, les réactions physiologiques, expression motrice, tendance à l'action, et l'évaluation cognitive, dont on n'a pas encore parlé, mais dont on va parler incessamment. Donc l'idée que le sentiment fonctionne un peu comme intégrateur de tout ce qui se passe pendant un épisode émotionnel a aussi l'avantage qu'il nous faut, fonctionnellement, un mécanisme qui permet une surveillance de ce qui se passe. Parce que l'émotion, contrairement à ce que le mot « passion » semble indiquer, est rarement une irruption explosive, sans contrôle, sans limite. La plupart de nos émotions sont assez bien contrôlées. D'ailleurs, au point où ils sont même utilisés stratégiquement, et c'était Aristote qui a déjà, dans son Éthica Nicomachéa, il a proposé des manières comment il faut se fâcher. Il disait qu'il faut se fâcher au bon moment, avec la bonne intensité, contre la bonne personne, etc. Donc, vous voyez, déjà depuis ce temps-là, on réalise que quelque part, les émotions, ce n'est pas ces choses qui nous prennent d'une manière passive. Les émotions, ça fait partie de notre comportement, ils font partie de notre stratégie interactionnelle, donc ils sont presque toujours contrôlés, régulés. Donc, si c'est le cas, il faut quand même quelque part une instance de surveillance qui nous permet de faire cette régulation. Et c'est, je pense, le sentiment. C'est-à-dire que quelque part, il y a un lieu où toute l'information est intégrée et est disponible pour servir comme régulateur. Je vais vous juste donner une petite illustration de Peanuts. Donc, Linus dit « J'adopte cette posture quand je suis déprimé ». Quand on est déprimé, il est très important d'adopter une posture convenable. Le pire que tu puisses faire est de tenir droit et relever la tête. Tu te sentiras tout de suite mieux. Donc, si tu veux profiter de ta déprime, il faut te mettre comme ça. Alors, moi, je pense que c'est un très bon conseil parce que, effectivement, les données de la recherche sur ce qu'on appelle l'hypothèse de la rétroaction proprioceptive, donc la manière de laquelle notre sentiment va refléter, par exemple, notre posture, va tout à fait dans cette direction-là. Donc, ceux entre vous qui ont envie de jouir de leur déprime, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, comme j'ai dit, dans la plupart des théories, il manque un élément essentiel, et c'est cette évaluation cognitive, cette évaluation subjective que vous avez vue sur les tableaux des composantes. C'est d'autant plus surprenant que dans la totalité de l'histoire de la philosophie qui a traité les émotions, c'était au moins implicite. Si vous prenez René Descartes, comme vous, la plupart d'entre vous savent probablement, dans les passions de l'âme, il a proposé que l'activation physiologique systématique est effectivement créée par des idées non matérielles. C'est la base de cette dualité âme-corps. La manière de laquelle, parce que c'est ça qui l'intéressait, comment est-ce que les idées non matérielles peuvent produire un effet somatique dans le corps ? C'est la question de l'évaluation subjective de ce qui se passe. C'est bien ces idées non matérielles. Et si vous lisez bien les passions de l'âme, c'est tout à fait évident, il fait l'analyse de certaines émotions dans le sens où il essaye de démontrer sous quelles conditions, quelles idées vont générer cette émotion. C'est la même chose pour Spinoza, qui a proposé que les émotions sont adaptées à l'interprétation de la situation que fait la personne. Donc, l'évaluation subjective donne la tendance à l'action. Par exemple, si quelqu'un me fait un tort, j'ai tendance à taper dessus. Normal, n'est-ce pas ? Donc, d'une certaine manière, c'est effectivement la question essentielle, quand est-ce que j'ai l'impression que quelqu'un m'a fait un tort ? Parce que c'est ça, c'est l'évaluation subjective du comportement de l'autre qui est à la base de l'émotion. Donc, je vais maintenir que cette évaluation subjective est l'élément clé de la réaction émotionnelle. Et, finalement, c'est notre point justement suivant, c'est Magda Arnold, une psychologue américaine, qui était la première en 1962 d'en parler explicitement, bien que la plupart des philosophes en avait parlé implicitement. Donc elle a proposé le mot appraisal pour ce phénomène d'évaluation subjective, et elle a proposé certaines dimensions. Et ensuite, il y avait Richard Lazarus qui, en 1964 et ensuite 1966, a travaillé sur le stress et il a continué à parler de cette histoire de appraisal comme étant la base de la compréhension du stress et des émotions. Je vais rapidement vous illustrer ça. Donc, il y avait un médecin, Hans Selye, un Canadien, qui était connu comme le pape du stress. C'était lui qui était le grand expert, et son idée était qu'il y a des stresseurs, qui vont produire le stress. Donc, ce n'est pas aussi simpliste que ça. Évidemment, c'était une théorie tout à fait intéressante, très importante, qui a beaucoup influencé notre compréhension du stress. Mais d'un point de vue de ce qui, parce qu'il était médecin, ce qui l'intéressait, c'était plutôt la réponse. Et là, il a beaucoup travaillé, très intéressant. Mais cet aspect de déclenchement ne l'intéressait pas tellement, parce qu'il n'était pas psychologue. Donc lui, il pensait qu'il y a des stresseurs, et ces stresseurs vont ensuite faire le stress. Tandis que Lazarus, et son point essentiel était, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de stresseur. Parce que normalement, il y a un stimulus, donc un événement, un objet, un bruit, quelque chose comme ça, qui est évalué subjectivement par cet appraisal et qui peut, pour une personne, produire la curiosité, pour une autre, le stress, pour le troisième, l'engouement. Moi, j'utilise toujours l'exemple du bruit des motos, parce que ça me stresse énormément. Quand c'est fou, c'est l'horreur. Mais évidemment, les motards qui aiment bien ce genre de choses, certainement, il y aura un engouement pour ce genre de bruit. Donc, vous voyez bien, même avec un exemple tout à fait simple, que c'est l'évaluation subjective qu'on fait de l'événement qui détermine l'émotion. Et c'est aujourd'hui, justement, une tradition très importante en psychologie de l'émotion, les théories de l'appraisal, qui traite de ces phénomènes. Donc, il y a toute une tradition maintenant de psychologues, dont je fais partie d'ailleurs, qui essaye de comprendre l'émotion sous cette forme-là. Et je vais très rapidement, et ça devient un peu technique maintenant, vous montrer comment on peut s'imaginer ça. Donc, vous avez un certain nombre de mécanismes psychologiques, comme l'attention, comme la mémoire, la motivation, le raisonnement, le soi, qui sont impliqués d'une manière actif, c'est-à-dire ils influencent le processus, mais aussi passif parce qu'ils sont influencés par l'émotion. Ensuite, vous avez la périphérie, donc l'efférence, les systèmes nerveux endocriniens, autonomes, somatiques, donc les muscles, le cardiaque, les hormones, etc., qui sont influencés par les émotions. Alors, comment est-ce que ça se fait? Bon, ce que je maintiens, c'est que si vous avez un événement, d'abord, on évalue si c'est pertinent pour nous. Si c'est pertinent, on dirige l'attention vers ça, on implique la mémoire, parce qu'il faut maintenant voir quelle est l'implication pour nous, quelles sont les conséquences. Est-ce que ça va nous aider, est-ce que ça va nous nuire, etc. Et ensuite, coping, donc la capacité de faire face, parce que si quelque chose de mauvais m'arrive, peut-être que je suis suffisamment fort pour me battre, donc à ce moment-là, c'est moins grave. Donc, évidemment, ça joue un rôle extrêmement important. Si quelque chose de dangereux m'arrive, quelqu'un me menace, par exemple, si j'ai très peu de puissance, j'aurai peur, parce que je n'ai pas suffisamment de capacité de maîtrise. Si, par contre, je suis fort, ou j'ai un frère qui est plus gros que moi, à ce moment-là, effectivement, je serais peut-être plutôt fâché. Donc, vous voyez bien que le même événement d'être menacé par la même personne peut ou produire la peur ou la colère. Donc, c'est effectivement cette histoire de pouvoir faire face qui détermine ceci. Ensuite, il y a encore la signification normative. Il y a beaucoup d'émotions qui sont générées par notre sentiment que quelque chose est contre nature et immoral. Comme vous savez, il y a des émotions morales très fortes qui sont générées par ça. Donc, ce sont des processus d'évaluation qui, à un certain moment, et c'est les flèches qui vont en bas là, vont influencer la périphérie pour créer ces patrons de réactions psychophysiologiques et autres dont a déjà parlé Darwin dans le sens d'adaptation. Donc on maintient tout à fait l'idée de Darwin d'adaptation, mais on lâche un peu l'idée que c'est organisé autour des émotions de base, hein, de penser qu'il n'y a que 5, 6 ou 7 émotions de base. Là, avec un modèle comme ça, évidemment, vous avez beaucoup plus d'émotions. Vous avez autant d'émotions qu'il y aurait des patrons d'évaluation qui se déroulent et qui auraient un effet direct sur la périphérie. Donc, une chose qui devient très intéressante, de nouveau, on ne peut pas traiter ça ce soir, c'est l'influence de notre langue. Le fait que la langue nous donne des catégories qui suggèrent des émotions de base, parce que là, on a la joie, la colère, la tristesse. Et c'est très intéressant que ça se trouve dans beaucoup de langues de la même manière, mais pas tous. Donc c'est très intéressant que, quelque part, ce système de concepts que donne la langue a une influence très forte sur notre travail scientifique sur les émotions. Voilà. Maintenant, on pourrait dire... Mais ça, c'est vraiment une théorie très psychobiologique. Où est-ce qu'il y a la société là-dedans? Et effectivement, il y a des sociologues, des anthropologues, plutôt d'une persuasion assez constructiviste, qui nient pas le fait qu'il y a un aspect psychobiologique des émotions, mais qui insistent sur l'importance primordiale de la culture, des valeurs, en insistant sur le fait que les émotions, quelque part, sont nos moyens d'interpréter ce qui nous passe à travers les moyens que nous donne notre culture. Alors, évidemment, là, il y a un nouveau débat. Vous avez un débat entre le versant plutôt psychobiologique et entre un versant plutôt anthropo-sociologique. De nouveau, je pense que c'est un débat inutile et permettez-moi encore un seul diagramme, et j'arrête avec les diagrammes, pour le démontrer. Donc, ce qui se passe, il y a un événement, et nous devons estimer les conséquences pour nous et l'utilité de ces conséquences. Donc, quelqu'un me menace, est-ce que j'aurais à craindre pour ma vie, par exemple. Et donc, Ist Werd, c'est un mot allemand de la cybernétique, qui veut dire c'est l'actualité, c'est l'état actuel. Et dans tout système, il y a une comparaison de l'état actuel, donc l'actualité, avec une finalité. Parce qu'on voudrait arriver à un but et on doit à tout moment voir où on est hein, en ce qui concerne notre progrès vers le but. Donc, ce qu'il faut maintenant voir, c'est d'où vient le Sollwert, donc c'est le deuxième mot, c'est la finalité, qui va déterminer notre réaction. Voilà, la finalité, les préférences, les attentes, les besoins, les buts, les valeurs, etc. Et effectivement, ces finalités sont données par la culture, en grande partie, par le self, notre soi, notre idéal de soi, mais aussi le contexte situationnel. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre un aspect socio-historique dans l'émotion, parce que ces processus de input, si vous voulez, c'est là où la société et le moment dans l'histoire jouent un rôle. Parce que nos préférences sont déterminées partiellement par la mode, on est d'accord. Nos attentes, elles sont déterminées par les médias. Nos besoins, ils peuvent changer. Nos valeurs, certainement, vont changer. On va en parler quand je parlerai à la fin du futur des émotions. Donc, ce qui se passe, et là, c'est le truc vert à côté, la comparaison. Donc, le cercle, c'est l'intégration, sommation, intégration de ce qui résulte de cette comparaison entre l'actualité et la finalité. Et cette comparaison fait partie d'un mécanisme biologique. N'importe quel animal fait la même chose. Évidemment, les comparaisons sont beaucoup plus simples, mais le mécanisme est tout à fait comparable. Parce que ce qui se passe après, c'est effectivement le résultat de cette comparaison doit, dans le sens darwinien, produire un changement adaptif. Donc, des réactions somatiques, de différentes sortes. Et là, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas encore le comportement. Ça, c'est la préparation. Donc la chose qui est la plus importante pour l'émotion, c'est de réaliser que ce n'est pas un instinct, ce n'est pas une réponse préprogrammée. L'avantage de l'émotion, et je pense que c'est à cause de ça que l'évolution l'a créée, c'est que l'émotion est extrêmement flexible. Donc, quand quelqu'un nous fait un tort, on peut ou taper dessus tout de suite, ou on peut se dire, mais est-ce qu'il est plus fort que moi ? Est-ce que je peux encore appeler quelqu'un ? Etc. Donc, on a un temps de latence entre la réalisation qui s'est passée et notre réaction. Mais ce qui est fondamental et extraordinaire, c'est que l'émotion va déjà préparer plusieurs choses. Donc, déjà, avant que j'agis, avant que je tape dessus ou fais autre chose, le rythme cardiaque va être augmenté parce que l'organisme est déjà préparé pour intervenir. Donc, vous avez avec l'émotion, au même temps, une préparation qui est automatique, inconsciente, jusqu'à un large degré, mais qui ne va pas exécuter tout de suite un comportement. Le comportement vient après. Le comportement, l'action ouverte, va être déterminée en grande partie par cette comparaison entre ce qu'on veut et ce qu'il y a actuellement, va être déterminé partiellement par ce qui a été préparé, point de vue physiologique, mais il y aura aussi une régulation. Je reviens là-dessus, on a déjà parlé un tout petit peu de ça. Donc, c'est la culture, mais aussi mon idéal de self. Si moi, je suis très pacifiste, je ne vais pas taper dessus, parce que je ne peux pas réunir l'idée de taper sur quelqu'un avec l'idée que je suis fondamentalement un pacifiste. Donc, il y a mon idéal de moi, il y a les normes de la culture, il y a aussi des normes contextuelles qui vont réguler l'action ouverte. Donc, ce n'est pas l'émotion. Donc, il faut faire vraiment la distinction entre des comportements émotionnels et l'émotion. Ce n'est pas la même chose. C'est des processus assez différents. Mais ce que j'aimerais bien faire avec cette graphique, c'est de vous montrer qu'on peut réunir l'idée d'un mécanisme psychobiologique qui est universel, qu'on partage tous, et l'idée d'une détermination culturelle, le fait que les émotions sont spécifiques dans certaines cultures. Là, il y a l'anthropologue Richard Schrader à Chicago qui démontre ça très bien pour certaines émotions en Inde, qui n'existent qu'en Inde, d'une certaine manière, au moins ce sentiment et le mot pour le sentiment, c'est spécifique à certains aspects de l'hindouisme. Et c'est tout à fait vrai que là, on voit que les émotions servent à confirmer, d'une certaine manière, les valeurs de la société, les mythes de la société, etc. Mais ça ne veut pas dire que c'est incompatible avec un mécanisme psychobiologique. Donc l'argument, finalement, c'est que vous avez des mécanismes psychobiologiques qui ont évolué pour permettre une flexibilité énorme, pour prendre comme input, justement, des aspects socio-historiques. Et le bleu, évidemment, c'est l'émergence qui résulte de ce processus. OK, je terminerai la nature des émotions en parlant de l'émotion comme définition. Séquence de changement d'état intervenant dans 5 systèmes organiques, donc les composantes, le système cognitif, parce que c'est là où se passe l'évaluation cognitive, le système neurophysiologique, le système moteur, les muscles, le système motivationnel, parce qu'il y a des tendances à l'action qui sont créées par l'émotion, et un système moniteur, donc une surveillance. Pour moi, c'est le sentiment. Et je propose que ces changements d'état se font de manière interdépendante et synchronisée, ça c'est très important. Synchronisé en réponse à l'évaluation de la pertinence d'un stimulus externe ou interne par rapport à un intérêt central pour l'organisme. Donc, quand il y a émotion, il y a toujours pertinence. On ne va pas s'émouvoir pour rien. L'émotion est un indicateur de pertinence pour nous. Et pendant cette période d'émotion, on va recruter toutes les ressources pour nous adapter à la situation qui a été créée. Et c'est cette synchronisation de tous les composante qui fait l'aspect spécifique des émotions. Voilà, c'était très rapide, mais j'espère que c'est au moins relativement clair. Maintenant, pour mon survol de littérature, je serai relativement bref. Il y a eu une révolution affective, comme j'ai dit, il y a eu énormément de recherches, et je vais juste prendre quelques exemples. Un exemple, c'est l'intérêt particulier qu'a eu l'approche neuropsychologique. Vous connaissez tous, je pense, donc on passe sur vol de l'état de la recherche, et je vais parler de ces quelques points très rapidement. Donc, un livre qui a trouvé énormément d'intérêt, c'est Damasio, l'erreur de Descartes. Il y a un autre de Ledoux, Joseph Ledoux, sur le cerveau et les émotions. Et ce sont des best-sellers qui ont, comme vous savez, vendu énormément de copies et qui sont très connus et qui, pour certains, représentent même la connaissance actuelle concernant les émotions. Là, il y a un problème parce que d'une certaine manière, ce qui fascine beaucoup de personnes, c'est la capacité de faire apparaître sur une image en beaucoup de couleurs l'endroit où on pense l'émotion se fait. Quelque part, il y a une fascination de localisation, hein, de penser que de savoir où ça se passe là-dedans, ça va nous aider à mieux comprendre. Ça, c'est vrai partiellement, parce que si on connaît l'architecture, peut-être ça va quand même nous aider aussi à comprendre le fonctionnement. Mais ce n'est pas vrai tout à fait, parce que là, la plupart des travaux en neuropsychologie des émotions, neurologie des émotions, sont faits ou avec des patients qui ont des lésions assez sérieuses et presque jamais comparables, ou avec des animaux de laboratoire, comme des rats, qui ont quand même un système nerveux assez différent, un style de comportement assez différent, donc ce n'est pas tout à fait comparable. Donc on pourrait beaucoup discuter de ça, et entre experts, c'est beaucoup discuté, jusqu'à quel point ce que trouvent Damasio et Ledoux peut être généralisé à l'homme. Et on a beaucoup de doutes de cette capacité de généralisation. Mais ce qui est plus problématique, c'est le problème que très souvent, les émotions sont simplifiées au point où on pense, moi je pense, on ne peut plus vraiment parler de recherche sur les émotions. Parce qu'on utilise des stimuli agréables ou désagréables, et très souvent c'est là où s'arrête l'émotion. C'est l'agrément, plus ou moins. Et je pense, si on prend la richesse des émotions comme décrit par exemple les poètes, c'est quand même un peu pauvre. Donc, quelque part, il y a un appauvrissement de la conception de l'émotionnalité qui est le résultat de cet engouement du public pour la neuropsychologie des émotions. Mais il y a encore un autre aspect qui me semble très dangereux. Je vais vous montrer ça. Deux modèles d'émotions. Et c'est un peu comme ce que j'ai montré avant pour Célie et Lazarus. Si vous prenez le modèle déterministe d'Amasio, et je l'ai encore rencontré récemment, et la manière de laquelle il présente la chose, c'est qu'il y aurait des emotionally competent stimuli, donc des stimuli émotionnellement compétents. Ça veut dire qu'il y a des stimuli qui provoquent certaines émotions, et il les appelle comme ça. Il y a un déclenchement qui se fait par un centre qui est particulier à cette compétence du stimulus. C'est le petit point rouge là. C'est fictif, donc c'est juste pour vous illustrer. Et ça donne une émotion, celle qui, justement, pour laquelle le stimulus est compétent. Moi, je pense que c'est absolument faux. Ça, c'est vrai peut-être pour quelques cas tout à fait particuliers de ce que j'appelle intrinsèquement agréable ou désagréable, effectivement, des stimuli qui, évolutionnairement, sont très, très typés et qui ont ce pouvoir d'évocation. Mais normalement, je propose qu'on a une situation comme ça. Vous avez un stimulus, comme mon bruit de moteur, de moto, qui va être traité de manière distribuée dans le cerveau. Il y a beaucoup de centres qui sont impliqués, pas seulement le système limbique, où la plupart des décisions, du traitement émotionnel se fait, mais toujours, et ça, Damasio l'a bien démontré, effectivement, aussi dans le cortex, dans le frontal, etc. Mais ceci d'une manière très distribuée, et c'est la chose la plus importante, différemment pour différentes personnes. Donc, le même stimulus peut provoquer, comme dans le cas du stress, la curiosité chez une personne, la tristesse chez une autre et la colère chez la troisième. Donc, on ne peut pas parler, dans la plupart des cas, de la capacité d'un stimulus, d'une compétence d'un stimulus, d'un objet, de produire une certaine émotion. Ça n'existe pas. Et quelque part, c'est un peu problématique que, étant donné, comme je l'ai déjà dit deux fois, le fait que la plupart des philosophes, ils ont implicitement toujours mis en avant cette évaluation, et le fait que depuis 30 ans, il y a cette théorie de l'appraiser, il est très étonnant qu'un certain nombre de neurologues continuent à insister sur l'idée, je pense révolue, d'une fonctionnalité intrinsèque de certains types de stimuli. Je ne vais pas dire grand-chose sur la psychophysiologie, sauf qu'on peut démontrer maintenant que l'idée de Darwin qu'il y aurait des patrons spécifiques pour certaines émotions au niveau psychophysiologique n'est pas tenable. On ne trouve pas ces patrons. Et moi, je pense que la raison est qu'ils n'existent pas. Que quelque part, notre évaluation est différente chaque fois et notre réaction adaptive est différente chaque fois. Je vais quand même parler un peu plus de l'aspect socioculturel. Je vous remonte cette graphique. Ce qui a été démontré très clairement maintenant, c'est qu'il y a une influence très forte de la culture sur l'émotion pour des raisons que j'ai évoquées. Donc, on peut démontrer que vous avez des aspects qui sont très psychobiologiques. Par exemple, les travaux de Paul Ekman sur l'expression faciale. Nous, on a fait des travaux comparables sur l'expression vocale des émotions. On peut démontrer que partout au monde, ils sont reconnus. Donc, il y a beaucoup d'universalité. Mais en même temps, vous avez beaucoup d'influence de la culture sur tout le processus de la communication. Par exemple, pour l'expression faciale, des display rules, des règles de présentation où certaines cultures vont interdire d'utiliser certaines expressions dans certains contextes, etc. Pour la voix, l'expression vocale, nous on trouve qu'il y a des différences qui sont dues à la langue qui est parlée dans différentes cultures qui modifient quelque part. Donc il n'y a plus la question nature versus culture, il y a aujourd'hui la question de quelle est l'interaction entre les deux. Laissez-moi terminer ce chapitre en insistant sur les travaux très importants en psychologie sociale qui maintenant convergent avec les sciences cognitives jusqu'à un large degré et qui ont démontré une influence énorme de l'affect sur le jugement, sur les décisions et sur le comportement. Mais surtout, les jugements de probabilité, par exemple, ils sont énormément influencés par l'affectivité. Il y a presque une explosion de données là-dessus dans la recherche. On peut démontrer que notre humeur, notre émotion a une influence souvent inconsciente, souvent implicite sur nos compétences de jugement et de décision. Et je pense qu'il y a un aspect appliqué très important, vu cette importance de l'affectivité sur ce qu'on appelle la rationalité, il faut absolument qu'on prenne ça en considération dans différents contextes, donc aussi le contexte politique. Il faut absolument se rendre compte du fait que quand on pense prendre les décisions très rationnellement, en réalité, c'est beaucoup de l'affectivité qui est derrière. Maintenant, ce n'est pas mauvais, forcément. Il faut juste se rendre compte de ça. Il y a une tradition maintenant qui est très forte en économie, mais aussi en psychologie, qui concerne la rationalité limitée. Donc, l'économiste Reinhard Zelten a obtenu le prix Nobel pour le démontrer. Dans notre activité économique, il y a cette rationalité limitée. On ne peut pas être rationnel dans le sens de l'économie parfaite, mais il y a une rationalité de l'émotion aussi. Et cette rationalité limitée, bounded rationality, dans beaucoup de cas de l'économie, va nous amener à prendre des décisions qui ne sont pas si mauvaises que ça. Donc, je vais maintenant, et j'ai encore quelques minutes, je pense, très bien, aborder un thème qui est difficile, le futur des émotions, et je vais devenir très spéculatif. On pourrait dire que les émotions n'ont pas de passé et futur. Ne s'agit-il pas de mécanismes psychobiologiques et culturels avec une forte composante universelle qui ne suivent pas la mode? Comment est-ce qu'on peut donc parler du futur? Oui ou non? Oui et non. Donc, de part de l'importance des valeurs sociales dans le processus constitutif de l'évaluation subjective, les émotions sont en fait soumises au grand mouvement du Zeitgeist. Donc voilà, tout ce qui est orange là, c'est quand même là où l'histoire se joue, où l'influence culturelle se joue, où on pourrait s'imaginer des changements dans le futur. Le fait que l'histoire du monde est aussi une histoire des émotions, ou plus précisément une histoire des périodes fortement marquées par des climats émotionnels, comme je vais les appeler, climats émotionnels, a été bien illustré, en particulier d'ailleurs, par d'historiens français, comme encore récemment Delumeau pour La peur. Dans de nombreux cas, ces climats émotionnels ont été le produit de préoccupations socio-économiques ou religieuses qui ont saisi une grande partie de la population dans certaines périodes marquées par des problèmes économiques comme la famine, les épidémies comme la peste ou l'incertitude créée par des dissensions religieuses comme la réformation et la contre-réformation. D'une certaine manière, ces cas-là sont caractérisés par le fait qu'un grand nombre de personnes partagent l'évaluation subjective qu'on fait de l'état de monde, qui devient quasi consensuel dans certains groupes. Donc on partage l'évaluation, donc on partage les émotions qui sont générées par l'évaluation. Et ceci, évidemment, crée des climats émotionnels. Ce genre de convergence d'évaluation des conséquences réelles ou imaginaires d'événements présents ou anticipés donc vont créer des climats bien spécifiques. Je pense que nous sommes en train de vivre depuis le 11 septembre 2001 un phénomène qui est tout à fait comparable, dans le sens où la peur du terrorisme et des attaques biologiques commence à créer un climat émotionnel dans la plupart des pays occidentaux, qui est certainement comparable aux exemples historiques que j'ai mentionnés ci-dessus. Donc on peut s'imaginer que l'histoire et le futur des émotions ressemblent à une cyclicité de thèmes de société qui sont à même de générer des émotions partagées dans des climats émotionnels. Mais on peut, et ça c'est, moi je pense, effectivement le cas, et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le sens où ça démontre le fait que l'émotion n'est pas un phénomène individuel exclusivement, l'émotion est aussi un phénomène collectif. Et on peut également défendre le point de vue selon lequel il y a une évolution dans la société moderne qui pourrait changer le mécanisme même des émotions d'une manière plus définitive, c'est-à-dire de changer la partie verte que vous voyez là. Parce que finalement, on vient de dire que c'est la partie évolution. Donc pourquoi est-ce que ce mécanisme ne devrait pas évoluer aussi? Donc est-ce qu'il y a des aspects du développement dans nos sociétés modernes qui semble indiquer qu'il y aurait peut-être un tel changement à prévoir. Un exemple, la technologie de la communication. Et j'aime beaucoup l'exemple des téléphones portables. Donc notre président a bien appelé à les éteindre. Et j'étais assez content que, étant donné l'audience, il n'y a pas eu un seul appel jusqu'à maintenant, ce qui est très bien. Normalement, à Genève, maintenant même à l'Opéra, il y a pas mal, au moins une fois, la soirée. Donc, moi, je pense que c'est un phénomène, on est d'accord, je pense qu'il a bouleversé notre style de vie, qui a quand même eu une influence énorme sur notre manière de communiquer. Et je pense que ça a aussi eu une influence énorme sur notre émotionnalité. Pourquoi ? Ben, je pense que le fait que le nombre d'occasions de vivre une émotion sur la base d'un appel téléphonique a multiplié. Il y a eu une multiplication des contacts sociaux par le biais de ces conversations téléphoniques dans toutes sortes de lieux et circonstances, c'est-à-dire dans beaucoup plus de possibilités qu'on soit animé, qu'on nous fait un tort, qu'on soit amusé. Déjà, point de vue masse d'occasion, il y a eu une grosse augmentation. Deuxièmement, il y a certainement eu une extraction de l'expression interpersonnelle de l'émotion, de son intimité. Normalement, l'émotion est quelque chose d'intime, mais de moins en moins aujourd'hui, c'est devenu public. Et c'est très intéressant parce que le grand sociologue Norbert Elias a proposé que l'histoire de la civilisation est l'histoire de la domestication de l'affect, de la régulation de l'affect. Est-ce qu'on va donc vers une décivilisation ? Le fait qu'on partage les émotions de nos concitoyens qui ne se limitent pas dans leurs expressions d'émotions au téléphone portable, dans le tram ou dans le train, est-ce qu'on va donc vers une décivilisation dans le sens d'Elias, ou est-ce qu'on va vers une société qui a moins de contraintes, moins de conventions ? Question très intéressante. J'ai encore combien de minutes ? Parce que maintenant je viens à quelque chose qui me semble extrêmement important, et c'est la possibilité que ces mécanismes de comparaison, l'appraisal, l'évaluation subjective, changent de caractère, parce que ça serait vraiment un changement du mécanisme. Les choses dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est le contexte qui a changé, les conditions de vie qui ont changé, et donc un changement de l'émotionnalité. Mais maintenant, on parle du mécanisme même. Donc, je pense que la télévision pose certains problèmes. Il y a une certaine convergence d'opinion. Je pense que la télévision change de contenu, change de procédé. Il y a peu de journalisme aujourd'hui. Il faut que je fasse attention ici, parce qu'on est sponsorisé par les médias, donc... Mais si vous prenez les journaux télévisés, dans le temps, il y avait des analyses, des problèmes politiques, des problèmes sociaux. Aujourd'hui, il y a généralement des concernés dont les réactions émotionnelles sont montrées à la télé pendant le journal télévisé. Et c'est l'expression émotionnelle du concerné, par exemple, d'une catastrophe ou une grève ou autre chose. C'est donc l'expression émotionnelle qui va comme argument, qui est pris comme analyse. Peut-être que j'exagère un peu, mais regardez une fois systématiquement ce qui se fait pendant les journaux télévisés. C'est très souvent ça qui est mis en avant, l'expression émotionnelle d'un concerné ou d'une concernée. Donc, à part du fait qu'il y a une contagion émotionnelle des réactions, qui va déjà émotionnaliser le débat, il y a une forte possibilité que il y a plus d'attribution causale qui est à la base de ces processus d'appraisal, d'évaluation subjective, parce que pour comprendre d'où vient un problème, on va attribuer la responsabilité. Si on a tendance à attribuer d'une manière très personnelle, il y a beaucoup plus de chances qu'on va se mettre en colère, parce que la colère dépend justement de l'attribution de la cause à quelqu'un d'autre et d'une certaine intentionnalité. Alors, la tendance à attribuer un dégât à une personne et aussi d'attribuer l'intentionnalité est une bonne condition pour produire la colère. De nouveau un cartoon, cette fois-ci je ne dois même pas dire un mot. Ça, c'est un très bon exemple, justement, pour ce genre de tendance à l'attribution externe. Donc, si vous avez une augmentation de la tendance à faire comme ça, et je pense qu'il y a un danger qui a ça, pour plusieurs raisons. Deuxièmement, il y a, au même temps, un sentiment d'être lésé, de devoir se battre, de devoir insister sur les acquis, insister sur les attentes et de se sentir lésé par toutes sortes de choses. Ce qui crée un sens d'injustice. Et ce sens d'injustice, et là on a des très bonnes données d'une étude interculturelle qu'on a menée dans 39 pays sur 5 continents, L'injustice est le facteur le plus important pour la génération de la colère, de la rage. Ça augmente immédiatement l'intensité de l'affect et la probabilité qu'il y a la colère qui l'emporte est extrêmement élevée. Donc, moi je pense que c'est là où on pourrait s'imaginer une croissance continuelle du potentiel de colère et de rage dans notre société avec les résultats qu'on connaît. Et tout ceci est aggravé par le fait que la honte semble en train de disparaître. La honte est une émotion socialisante par excellence et elle contraint quelques caractéristiques de ce que je viens de décrire comme phénomène lié à la colère, l'injustice, etc. Parce que la honte fait de sorte à ce que nous avons toujours ce sentiment de devoir nous comporter selon les normes que nous avons acceptées. Et donc, c'est conservateur comme force, mais c'est très important, comme j'ai dit, comme socialisation, donc comme une des préconditions pour une vie sociale, une vie dans une société qui doit, sans devoir sanctionner à tout moment, quand même faire confiance à ce que les gens font comme il faut. Et donc, je n'ai malheureusement pas le temps, mais je suis convaincu que la honte est en train de disparaître, au moins de s'affaiblir passablement. Je conclue dans une demi-minute. Qu'est-ce qu'on peut donc conclure sur le futur des émotions ? Difficile à pronostiquer. Vu l'alternance d'une prédominance de la raison ou de la passion dans l'image que la société se fait de la nature humaine, qui a certainement tendance à affecter les représentations et les actions de ses membres, et vu aussi la succession de climats émotionnels différents dans l'histoire des cultures à travers le monde. Nous pouvons certainement nourrir l'espoir que nos connaissances concernant les mécanismes psychobiologiques sous-jacents augmenteront de manière exponentielle. Je pense que là, il n'y a aucun doute. Il est moins probable, par contre, que nous arrivions à mettre en évidence une évolution de ces mécanismes dont les dysfonctionnalités face aux conditions de vie du XXIe siècle commencent à se faire sentir. Afin d'y parvenir, il nous faudrait une meilleure compréhension de l'effet des valeurs et des motivations façonnées par les grandes tendances socio-historiques sur les réactions affectives. Et là, on est loin. C'est là le grand défi auquel sont confrontées les sciences affectives émergentes. Merci.
Vous avez abordé dans votre brillant exposé sur l'émotion, le stress. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu mieux ce qui différencie votre notion d'émotion par rapport au stress, dans la mesure où, me semble-t-il, le stress est un système de fabrication de pouvoir et de domination qui influence de plus en plus nos sociétés. Et ça me paraît un point important aussi, si vous pouvez nous donner votre sentiment là-dessus.
Je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne le sentiment du stress et la manière de laquelle c'est utilisé dans nos systèmes de santé et dans nos systèmes d'emploi, etc. En ce qui concerne l'aspect psychobiologique sous-jacent, je pense, moi, qu'il n'y a pas vraiment de stress pur. Mon point de vue, c'est que le stress, normalement, c'est une émotion qui est trop intense et trop longue. Donc, il y a différentes émotions stress. Donc, au moment où on a une émotion, par exemple, de la colère due à un problème qui nous affecte et on n'a pas de puissance du tout, ben, cette colère va être très, très longue et très intense avec les conditions néfastes. Et ça, je trouve, c'est effectivement un problème assez important. Mais il est vrai qu'il y a ce côté médiatique public du stress qui est partiellement manipulé et qui est problématique.
Je voulais vous dire pour commencer que j'ai énormément apprécié votre conférence, mais tout à l'heure vous avez évoqué vos travaux sur justement l'importance de l'émotion dans la voix. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus?
La voix est extrêmement intéressant comme moyen d'expression de l'émotion parce que c'est un processus. Très souvent, quand on regarde le visage, on utilise par exemple pour étudier des photos et c'est statique à ce moment-là. Et même quand on prend des bandes vidéo, il y a un changement, mais il y a des patterns qui restent relativement stables. Par contre, la voix change immédiatement dès qu'il y a un changement de l'émotion. Il y a par exemple des très jolis exemples de la vocalisation des chimpanzés où on peut démontrer comment l'émotion qui change quand il y a un accroissement de la distance vis-à-vis, par exemple, d'un animal dominant, la voix change dans les millisecondes. Donc la voix, d'une certaine manière, c'est un indicateur extrêmement précis de l'émotion. Donc, dans ce sens-là, nos études portent sur un effort par des analyses donc, psychoacoustiques où on essaie d'analyser de manière digitale les changements de la qualité vocale, par exemple de la fréquence fondamentale, le spectre, etc., de démontrer comment ces processus d'évaluation subjective que j'ai montré vont changer la voix. Et un autre aspect qui est très intéressant, que c'est la voix, par exemple, dans le chant, est aussi très, très intéressant pour la communication de l'émotion. Donc, c'est très riche.
Peut-on dire que de l'émotion naît l'expérience?
Généralement, comment... Expérience de quoi?
Je vais être très trivial, je vais dire l'expérience de la vie, l'expérience que l'on acquiert au cours des années. Et si on a de l'expérience, a-t-on moins d'émotions?
Ça, c'est une question extrêmement intéressante. Si vous prenez la théorie de l'émotion de Sartre, c'est tout à fait proche à votre question, parce que lui, il maintient que c'est par les émotions que nous comprenons le monde. Et c'est un peu trop simpliste, mais c'est un peu dedans. Et il est vrai que l'expérience affective, donc, est celle qui est mémorisée, celle qui est stockée en mémoire. Donc c'est ça qui donne la couleur à notre expérience. S'il y a des expériences qui sont vides d'affectivité, ils sont presque comme des chimères. Donc il n'y a que l'affectivité qui fait de l'expérience quelque chose qui est ressenti comme important et qui donc très souvent est mieux stocké en mémoire. Donc dans ce sens-là, je dirais peut-être qu'effectivement, c'est l'émotion, c'est l'affectivité qui donne beaucoup d'importance à l'expérience et qui fait que l'expérience se trahit par ce qui nous semble important. Comme j'ai dit, les émotions sont des indicateurs de pertinence. Donc, nos expériences affectivement colorées sont des expériences de ce qui nous est important.
Vous avez bien montré la complexité du problème, ne serait-ce qu'en montrant qu'il y a au moins deux facettes, une facette biologique et une facette anthroposociale. Pour la facette biologique, ça paraît être la plus simple, du fait déjà que nous avons beaucoup de, semble-t-il, de correspondances avec les animaux, et au cours de l'ontogénèse également, au début de l'ontogénèse, tout le monde se ressemble, j'allais dire. Par contre, pour ce qui est du social, et vous avez bien fait allusion à ce qui se passe dans le monde actuellement, les interprétations entre ce qui est juste et ce qui est injuste, les différences de morale, bon, les expressions des émotions se voient chez tout le monde, aussi bien chez, disons, les Palestiniens que chez les Américains, mais les causes qui les provoquent sont tout à fait, plutôt les appréciations, les jugements de ce qui est juste et injuste sont tout à fait différents. Mmh.
Non, vous avez absolument raison, et je pense que c'est là un peu la force de ce modèle d'évaluation subjective, parce que ça démontre comment le même événement peut être interprété et produire des émotions tout à fait différentes à partir des valeurs différentes des personnes. Donc, par exemple, le fait qu'on a vu sur l'écran des manifestations de joie le 11 septembre dans certains endroits, mais effectivement, c'est à cause du fait que le même événement est interprété d'une manière très différente. Donc, je pense que c'est ça qu'on sous-estime. Et d'une certaine manière, nous avons tendance à penser que les autres vont réagir comme nous, parce que normalement, on a tendance à penser qu'on représente un peu la norme. Mais ce n'est plus comme ça. Certainement, entre sociétés ou entre, disons, en utilisant des groupes un peu périphériques comme le groupe de Bin Laden, par exemple, Mais c'est même vrai à l'intérieur d'une société, vu que les sociétés ne sont plus homogènes. Il y a beaucoup de sous-groupes qui vont voir le même phénomène d'une manière très différente. Et on a tendance à oublier ça. On a tendance à penser encore que la culture, notre culture est homogène. Bien, ce n'est plus le cas. Donc, on va voir beaucoup plus de ce que vous décrivez, je pense.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'information et du besoin d'émotion. Ouais. Croyez-vous pas qu'aujourd'hui, dans le système d'information, que ce soit si bien par la télévision, par tous les médias, ne devient pas une drogue pour chacun? Car si j'ouvre mon téléviseur, si par exemple j'ai une révélation d'actes qui ne m'intéressent pas, qui ne sont pas sensationnels, je vais avoir une impression de manque. Je prends le journal du Monde aujourd'hui, la récession américaine se confirme. Mais ça m'ennuie parce que je voudrais bien qu'il passe à l'action. Et j'ai besoin d'émotions, même dans ce domaine-là. Pensez-vous pas donc que ça ne servirait pas une drogue? Je ne veux pas parler une drogue parallèle, si vous voulez, ou autre chose. Mais on a besoin d'émotions dans l'information. Ouais. Et les journalistes savent très bien l'utiliser.
Ouais. Non, tout à fait. Donc je pense que c'est un peu ce que j'ai mis à la base de ce développement qui consiste à voir l'analyse différemment, de prendre l'émotion déjà comme évidence de quelque chose qui est derrière, plutôt que de l'accepter en tant que réaction différentielle. Donc là, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est au moins aujourd'hui, dans notre période socio-historique, il y a cet engouement pour l'émotion. Tout le monde veut voir des émotions réelles. Donc des émissions comme Loft Story ou Big Brother, etc., c'est aussi partiellement ça. Hein, on veut regarder life des émotions. Les gens regardent pour ça. Il y a aussi le sexe, évidemment, mais c'est aussi l'émotion, n'est-ce pas, en grande partie. Donc, c'est vrai que comme la publicité l'utilise de promettre des émotions, c'est par l'information dans les médias que ça joue aussi. Donc, personne ne semble vouloir des analyses neutres, sobres. On veut un peu l'aspect émotionnel des choses. Et le fait, par exemple, si on prend les événements du 11 septembre, ce que j'ai trouvé choquant, c'est la manière dans laquelle les images ont été répétées. Il y a des gens qui regardent ça, ils continuent à regarder ça. Donc, quelque part, effectivement, on pourrait craindre qu'à un certain moment, qu'il y a quand même un abaissement de notre seuil de sensibilité pour certaines émotions, il faut toujours plus pour que ça soit encore satisfaisant, point de vue sensation forte.
Vous avez parlé de l'influence de la langue. Est-ce qu'elle rejoint celle de la société, je suppose, enfin, et est-ce qu'il y a une influence de la langue et ensuite une influence de l'émotion sur la langue, enfin, qu'est-ce qui est un peu primaire, si j'ose dire?
C'est complexe parce que vous avez des effets, par exemple, de la structure phonétique de la langue. Les langues de ton, par exemple, comme les thaïs, là, l'expression de l'émotionnalité est partiellement changée par le fait que la fréquence fondamentale est utilisée pour des buts sémantiques. Donc là, vous avez une interaction qui est extrêmement forte. Mais vous avez aussi, si on regarde, par exemple, cette présence de catégories dans la langue qui, dans le sens de la théorie de Worf, vont quand même avoir une influence comment on va interpréter des choses et certainement comment on va communiquer des choses. Par exemple, vous avez des langues où il n'y a pas de mots pour certaines émotions. Ce qui est utilisé, c'est de parler, par exemple, de troubles à l'estomac ou d'autres manières de quand même parler de ce qui a évoqué la situation, mais il n'y a pas de mots. Et d'une certaine manière, ça crée une communication très différente. Et là, les anthropologues interprètent la manière de laquelle la langue reflète les valeurs de la société.
Je vous prie de m'excuser. Je voudrais savoir si vous avez lu L'erreur de Descartes, qui est sortie il y a 2-3 ans. Je ne me souviens plus de l'auteur. Où justement, il mettait en question le fait de la raison pure contre les sentiments. en faisant une espèce de conclusion que l'intelligence sans les affects va beaucoup moins, sans la synergie des affects va beaucoup moins loin qu'avec les affects. Est-ce que vous avez lu ce livre et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Je peux répondre oui à la première question. Et c'est effectivement l'aspect le plus positif du bouquin de M. Damasio, parce que c'est tout à fait vrai. Et son récit du cas de Nathaniel Gage, donc la personne qui a eu cet accident, qui a rendu inopératif une partie de son cortex frontal, et qui donc avait une intelligence tout à fait normale, d'un point de vue fonctionnel, mais qui n'était plus capable de quelque part gérer ses affaires parce qu'il ne savait pas ce qui était important. Et là, le point que Damasio fait, et je pense qu'il a tout à fait raison, c'est qu'il manque l'affectivité. Donc c'est exactement ce que j'ai dit, dans le sens où le fait que les émotions sont indicateurs d'importance, si on n'a pas les émotions, ou s'il n'y a pas un sens de l'importance qui vient par l'affectivité, ben on ne peut plus gérer nos affaires. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec Damasio, pas sur beaucoup d'autres points.
Moi, la question que je me pose et que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que depuis la naissance des émotions chez l'homme, on tend vers une diversification des émotions? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, petit à petit, on a de plus en plus d'émotions différentes ou... enfin, voilà.
Très bonne question. C'était un peu ça que j'ai voulu dire en ce qui concerne le futur des émotions. Est-ce que les mécanismes changent? Donc, une possibilité serait la naissance d'une émotion qu'on ne connaît pas encore. Il y a deux réponses à votre question. Une, c'est qu'un psychologue comme Hebb, lui, il est convaincu que c'est vrai, au moins en ce qui concerne les différentes espèces. Donc, l'argument que le fait que l'homme a beaucoup d'émotions est dû à son système cognitif très performant. Donc, d'une certaine manière, ça permet des émotions qui ne sont pas présentes chez des animaux qui ont moins de capacités cognitives. Donc, il y a des aspects très intéressants. Par exemple, est-ce que les gens plus intelligents sont plus émotionnels que d'autres? Ça serait une conséquence. Et est-ce que si il y a une augmentation de l'intelligence, là, on parle effectivement de cette possibilité qu'avec l'éducation, ça va quand même se faire. Il y a une évolution de l'intelligence. Est-ce que l'émotionnalité va aussi c'est différencié, on ne sait pas, c'est très intéressant. En tout cas, l'autre question, c'est que quoi constitue l'évidence d'une nouvelle émotion? On sait qu'il y a des émotions qui n'existent plus. Donc, justement, les psychohistoriens, comme Harry, un philosophe qui a étudié les émotions de ce point de vue constructiviste, peut démontrer qu'il y a des émotions qui existaient par exemple dans des monastères du Moyen-Âge où il y avait même des mots spécifiques là-dessus qui n'existent plus. Donc là on ne sait pas trop est-ce que c'est le mot qui a disparu ou est-ce que le phénomène a disparu aussi. Et là on est face à un problème grave parce que comme j'ai dit, il y a un niveau qui est le niveau psychobiologique, il y a un autre niveau qui est notre communication sur ces phénomènes en utilisant la langue. Et il y a des mots qui deviennent de plus en plus utilisés, de moins en moins utilisés. Et donc, jusqu'à quel point ça indique ou la disparition ou la naissance d'une nouvelle émotion ou juste d'une mode, comme on a vu avec l'histoire stress qui est devenue très à la mode, c'est difficile à dire. Mais c'est certainement extrêmement intéressant comme question.
Oui, Sir Scherer, merci.